Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas, round 42, les réseaux de l'école en bateau. L'école en bateau, un réseau pédophile sous couvert d'aide sociale. L'affaire du réseau donc de l'école en bateau date des années 90, date de dépôt des premières plaintes. Mais l'école en bateau était une association qui recevait des jeunes ados sur un ancien bateau de pêche transformé en centre d'accueil. L'objet était, je cite, favoriser l'épanouissement intellectuel, psychologique et social de l'enfant. Pourtant, plusieurs anciens élèves, entre guillemets, mineurs à l'époque des faits, se sont plaints d'avoir subi des sévices sexuels de la part du skipper Léonid Kamenev, qui était aussi le directeur de l'association. Les policiers identifieront ainsi une trentaine de victimes, pour l'essentiel des garçons, pour lesquels il n'y avait pas encore prescription. Rappel des faits. 1969, début de l'école en bateau, Kamenev embarque quelques jeunes. 1980, début officiel de l'école en bateau. 1982, Kamenev aura été inquiété par la justice dans l'affaire du Coral. Je vous renvoie à un autre podcast sur cette affaire particulièrement. Un lieu de vie dont on a dit qu'il abritait des partous pédophiles et où le Gotha du Parti Socialiste et des intellectuels de gauche se serait souvent rendu le week-end. 340 personnalités en tout avaient été impliquées dans cette affaire avant d'être toutes blanchies par l'un des accusateurs qui, lui, a été en prison. 1994, première plainte par un jeune alors que le bateau est en escale en Martinique. Kamenev est alors brièvement arrêté en décembre. Février 95, le dossier est annulé en raison d'un vice de procédure. Kamenev est relâché. À partir de là, il reste dans les eaux internationales pour ne pas être arrêté à nouveau. Il ne fait escale que dans des pays où aucun accord judiciaire n'existe avec la France au niveau de l'extradition. À ce moment, 500 jeunes ont déjà navigué avec l'école en bateau. 1999-2001, nouvelle vague de plaintes à travers la France. D'après le journal du dimanche du 9 mai 2008, je cite, le dossier est su successivement instruit à Bordeaux, Lille, puis Fort-de-France en 2001. Et rien ne se passe. Fin de citation. Une dizaine d'éducateurs sont mis en cause par les victimes. 2006, l'enquête redémarre à Paris après s'être enlisée à Fort-de-France. Mai 2007, un mandat d'arrêt international contre Kamenev et contre Bernard Poggi, le second du bateau, édité. 31 janvier 2008, Kamenev est arrêté à Caracas, au Venezuela, et mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Kamenev est enfin extradé du Venezuela, où il a squatté dans les eaux internationales avant d'être arrêté à Caracas. 2008, 12 victimes sur 27 victimes non prescrites se constituent partie civile. La juge Nathalie Dutartre, qui instruit le dossier, dira au poste que, je cite, il ne faut pas faire de surinformation car les choses sont assez compliquées. Cela risquerait d'indisposer les autorités. Fin de citation. Septembre 2009, Kamenev est libéré sous contrôle judiciaire. On nous dit qu'il est vieux et que bon, à cet âge, on peut bien le libérer. En effet, à 75 ans, il a 75 ans en 2012. Et effectivement, il a réussi à échapper à la justice depuis au moins 30 ans. 2011, 11 plaignants attaquent l'État qui a manifesté toute la mauvaise volonté possible pour enquêter et faire condamner Kamenev et les pédophiles de l'école en bateau. Pourtant, à ce moment, on dénombrait déjà une centaine de victimes, rien que pour Kamenev. Mai 2011, Kamenev et quatre autres personnes sont renvoyées devant les assises. Février 2012, l'État est condamné à verser 245 000 euros pour avoir mis autant d'années à enquêter et à condamner Kamenev, dont le procès n'est toujours pas annoncé. Une victime de ces pédophiles expliquait aux Parisiens du 9 décembre 2010, je cite, que se passait-il à bord du Carec Venn, donc le nom du bateau? En fait, ça a commencé bien avant d'embarquer. Avant de prendre la mer, on devait participer à un stage sur une péniche amarrée sur la Seine à Paris pour savoir si nous étions aptes à la vie en communauté. Là, c'était séance de sauna collectif pour découvrir nos corps. En mer, certains responsables se livraient à des attouchements et à des viols. On nous encourageait à avoir des rapports sexuels avec des adultes ou entre nous. Celui qui refusait était mis à l'écart. C'était un piège infernal. Comment fonctionnait ce piège? Tout était fait pour avoir le sentiment d'appartenir à une communauté privilégiée. Mais il y avait un revers. Léonid Kamenev était un manipulateur brillant. Il a utilisé cette idéologie de la libération de l'enfant pour assouvir ses déviances. La justice dispose de mon livre de bord où je racontais tout ce que nous subissions. Je collais les pages pour que personne ne vienne les lire. Fin de citation. Dans le même journal du 18 mai 2008, on nous dit que, je cite, plusieurs jeunes équipiers ont raconté aux enquêteurs l'ambiance sournoise à bord, où la règle était la nudité imposée, sans oublier les relations sexuelles forcées entre les jeunes eux-mêmes et les adultes à bord de l'ancien thonier. Fin de citation. Un bateau restauré à grands frais par une association bretonne en 2005. Un véritable fascisme pédophile, se souvient Ronald Lazon, témoin de scènes outrageantes et ancien équipier à bord de ce bateau. Ronald Lazon a été embarqué sur le Caraqven en 1980 quand il avait 13 ans. Quelque peu désintéressé par l'école, il a été envoyé là par ses parents qui avaient navigué avec KMNF auparavant. L'homme explique au quotidien que, je cite, il régnait clairement à bord une ambiance hautement pédophile, car c'était même du fascisme, avec car la liberté de Léonid Kamenev n'était que la sienne. Les enfants n'avaient pas d'autre choix que de subir ces assauts, c'était une pression constante. Il avait instauré à bord une règle prônant une liberté sexuelle totale entre adultes et enfants. Il se refusait à faire toute différence. Mais à l'époque, cette nudité commune ne choquait personne. Le dénoncer n'était même pas concevable, car il était une sorte de gourou de la sexualité libre, cher à quelques 68 heures. On ne peut que trop facilement imaginer ce qui s'est passé pendant 30 ans à bord du voilier avec des enfants. Pour être bien vu, les enfants devaient céder aux avances de Kamenev et se balader nus comme il l'imposait. Fin de citation. D'ailleurs, en lisant la doctrine de l'école en bateau et le récit fait par ses adeptes, on comprend qu'un certain nombre d'enfants ont été renvoyés FISA pour inadaptation à la vie à bord, comme ils disent. On imagine à quoi était due cette inadaptation. En 92, Ronald Lazon revoit Kamenev une fois, je cite, il m'avait raconté qu'il voulait transformer le bateau et supprimer toutes les cabines pour ne faire qu'un seul grand lit à bord où tous dormir ensemble. J'ai compris qu'il n'avait pas changé. Fin de citation. Enfin, il faut savoir que cet esprit pseudo-libertaire, mais qui en réalité avait pour but d'éliminer la notion de consentement des mineurs quand un vieux pervers veut les violer, est toujours en vogue, même si aujourd'hui on le dit différemment. Si en 1985, il pouvait se trouver une journaliste, entre guillemets, Catherine Baker, pour défendre le bien fondé des abus sexuels au Corral et ailleurs, plus personne n'oserait dire aujourd'hui que, je cite, je ne mets pas en doute, moi, que Claude Cigala et ses amis aient voulu réellement éviter à des enfants psychotiques l'horreur sans nom des institutions auxquelles on les condamnait. Fin de citation. Donc Claude Cigala était le tenancier du Corral. Pourquoi? Parce qu'ils ont été bouleversés par des êtres bouleversants. L'amour circule au Corral, pas l'amour béni des éducateurs pour ces pauvres créatures qui ont bien besoin d'affection, mais l'amour, le vrai. Caresse, sexualité, n'était-ce pas la moindre des choses? Et Sigala a parfaitement raison de dire que l'habituelle réserve des spécialistes d'enfants est un viol. S'il fallait protéger les enfants, ce n'est pas contre l'amour, mais contre le manque d'amour qu'il faudrait s'élever. Le non-désir, le refus de tendresse font sur cette planète autant de mal que le viol. Et pourtant, c'est vrai que le viol est une torture inqualifiable. Ce qui est impressionnant dans cet article, donc fin de citation. Ce qui est impressionnant dans cet article, c'est que Baker ne cherche pas du tout à nier la réalité des abus sexuels. Pour elle, c'est normal, et c'est même très bien. Non, Baker résume l'affaire Corral à une divergence de point de vue entre ceux qui disent, je cite d'un côté, nous aimons les enfants, donc nous les respectons, comprendre les pédophiles, et ceux qui disent, ou plutôt à qui Baker fait dire, vous aimez les enfants, donc vous ne les respectez pas. Fin de citation. Effectivement, c'est quand même intéressant. Donc c'est cette histoire de point de vue qui finalement ne donne lieu. Les seuls points de vue qui ont droit de citer sont les points de vue des adultes. Il suffira de demander aux enfants s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Et évidemment, aucun enfant n'aime se faire violer. Donc ce serait quand même intéressant à un moment donné de remettre en avant la parole de l'enfant. Continuons. Or, aucun défenseur des enfants n'ira dire qu'un pédophile aime les enfants. Un pédophile est un égocentrique, narcissique, qui se moque complètement du gamin dont il veut abuser. Baker avoue aussi sa reconnaissance pour Léo Kamenev, tout en faisant l'apologie d'un amour des plus ambigus sur ses bateaux. Elle écrit ainsi, je cite, je ne suis pas étonné de ce qu'on a appelé les écoles parallèles et donné prise à toutes sortes d'agitations journalistico-policières dans les têtes. Je suis au moins reconnaissante à Léonid Kamenev de l'école en bateau d'avoir ôté de la bouche des infâmes commères leurs petits secrets croustillants et misérables. Il veut, sur ces esquifs antiscolaires qu'il a lancés, de la tendresse, du désir, de l'amour, aussi bien avec les adultes qui sont embarqués dans cette aventure qu'avec les enfants. Tant que ces rapports ne seront pas possibles, nous demeurerons un mélange de colonies de vacances libérales, d'écoles nouvelles et de saints chantiers de jeunesse. Fin de citation. Il écrit que les enfants ont eu raison de ses pudeurs, qu'ils l'ont débordé et fait bander sans honte. Bien sûr, c'est la faute des enfants. Il raconte comment il a dû lui-même apprendre à vivre une sexualité moins enfermée, moins enfermante, que cela n'a pas toujours été vrai, et qu'il a par exemple refusé l'offrande d'un enfant par un stupide embarras, incapable même d'un sourire amical, et qu'il le regrette parce que son air idiot a dû blesser l'enfant. Or là vraiment, on se fout de la gueule du monde, hein, c'est incroyable. Le mec est un manipulateur qui a tout fait, mais il va se faire passer pour un timide, que c'est l'enfant qui voulait avoir une relation avec lui et qui n'a pas osé. Non mais attends. Le mec, comme dit Coluche, les cons, mais là c'est pas des cons, ça ose tout. Un autre qui torture des scarabées arrache aux crabes leurs pinces. Il dit trop tard, je cite, « On aurait dû faire l'amour ensemble, mais il y a tes interdits, il y a ma retenue, il y a la loi. » Fin de citation. Oui, bien sûr, les interdits, la retenue, la loi, tout ça on a vu pendant 30 ans. Et vous vous doutez bien que si le gamin il torture les scarabées, il arrache les crabes aux pinces, c'est parce qu'il va tout à fait bien suite aux abus, bien sûr. On va s'arrêter là sur ce... Sur ce sujet, sur ce document, sur ce réseau, on ne peut que vous conseiller un documentaire de Carl Zero qui a été fait sur le sujet, un autre qui a été fait lors du procès avec des enfants victimes qui s'appelle L'enfance sabordée, et donc là vous aurez la parole des enfants devenus adultes hein, avec ce qu'ils ont vécu. Également une autre vidéo, donc vous verrez les liens sur l'article. Et puis on ne peut que rajouter également les liens de l'école en bateau, qui était en lien avec une autre association qui faisait exactement la même chose sur le même modèle côté anglais, de l'autre côté de la Manche, qui s'appelait le Azimut Trust, et notamment les liens avec un autre réseau qui s'appelait le réseau Wrighton, du nom du plus grand spécialiste à l'époque de protection de l'enfance, qui œuvrait auprès du ministère et qui avait des liens avec cette association Azimut Trust. On peut également, donc je vous renvoie un podcast sur le réseau Wrighton, qui traite de cette association également. Il y a des liens également avec ce qu'on appelait les yachtmen, c'est-à-dire des associations enfin, ou des fraternités d'anglais riches qui faisaient de la voile entre l'Irlande, le Pays de Galles, les côtes sud de l'Angleterre, la Cornouaille et puis la France, la Bretagne, et qui allaient par exemple à Jersey, et où on sait tout ce qui s'est passé dans les orphelinats de Jersey à l'époque, et où il y avait des témoignages effectivement de bateaux avec des gens qui accostaient, avec des gens qui accostaient avec des enfants, et puis qui venaient faire donc des viols sur les enfants dans l'orphelinat de Jersey. Je vous renvoie à ça avec un podcast qui est consacré spécialement à cette affaire sur les orphelinats de Jersey. Donc voilà, à la prochaine.